Hello, everybody. Welcome to the Athletic Support, Le Support Athlétique, your podcast on the Montreal Canadiens, your post-game podcast on the Montreal Canadiens. I'm Marc-Antoine Godin with Arpin Basu. Arpin, Canadiens are up 2-0 in that series. Are you surprised?
Yeah, I am surprised. Am I surprised compared to when the series started? Yes. I'm actually even surprised after game two. You know, they win 1-0. I really thought the Scheifele suspension, the injury to DeMelo, all the adversity that the Jets were facing was going to be a rallying cry for that team, that they were going to come out really super hard and that the Canadiens were going to have to withstand a little something from them, especially considering they had to go, you know, they had to protect home ice to some extent. They're going to Montreal, building that's going to have some fans in it. It's like a pretty considerable number of fans compared to the fans that they've played in front of so far. So I am a bit surprised. I'm a bit surprised the Jets did not bring more. But the Canadiens, I felt, played a super patient playoff road game that, you know, was good. The Jets offered them some opportunities early in the game to really take control of the game, and they seemed to be happy to play a patient, somewhat tentative game, and were comfortable in that, especially after Toffoli scored shorthanded. The Jets brought it a bit in the third, obviously, and that's when Carey Price had to kind of step up. But otherwise, the most surprising element of this is that the Jets didn't show as much as I thought they would in game two.
Yeah. No, I agree with you. But you mentioned patience. Dominique Ducharme, after the game, said something interesting. He said that with confidence comes patience. And it's really all the signs of a team that's playing with a lot of confidence right now. They just lined up. They just won 5 games in a row, right, for the first time since 2017. Mm-hmm. So obviously including both playoffs and regular season. But so to find that groove and that's consistency at this point in the year is very interesting, because they it's been so difficult for them to you know, from one game to another, sometimes from one period to another, to keep their groove going, that now to be able to never play from behind and just always, you know, take the lead, keep it, and playing this very systematic, sometimes boring brand of defensive hockey, but suppressive. I mean, the Jets couldn't do much tonight. I mean, the Deno line, I thought, was once again very effective, but it's all four lines really that managed to reduce the high danger chances to a minimum and make Carey Price's life a lot easier in the first 40 minutes.
Yeah, I thought the biggest contrast in the first 40 minutes was that the Canadiens were able to get the puck back, move it to a forward, move it to another forward, and make their way up the ice cleanly, something that they weren't able to do against the Maple Leafs. Even when they were winning games, they were having trouble doing that against the Maple Leafs. Like, it wasn't a smooth, clean breakout from their end and entry into the other end. And on the opposite side of things, I thought the Jets were having a really hard time getting from their end to the Canadiens' end. The Canadiens were really good with sticks in the neutral zone, getting their sticks on passes, forcing the Jets to make decisions when they don't necessarily want to. They were being disruptive, basically. And I didn't find that the Jets were being all that disruptive to the Canadiens. Now, that didn't produce offense for the Canadiens. I mean, neither team scored at 5-on-5. But it did create some zone time. It created some pressure in the first 40 minutes, and it allowed them to have the Jets playing on their heels a little bit. And a lot of the stuff that, you know, Dominique Ducharme was talking about early in the season, I remember he would say, well, you know, when we don't kill plays and then we get stuck in our end and then we just have to go over the red line and dump it in, and there's no way to create offense that way. Well, I found the Jets were doing that a lot tonight. And even when they weren't doing that, it wasn't a clean entry into the Canadiens' end. It was very rare that they did it in the third period when they got a little bit more desperate. But in the first 40 minutes, I thought that was really the contrast between the two teams, is one team is exiting and entering cleanly and the other team was not.
Yeah. And And even then, in the third, they started with a big push, the Winnipeg Jets. But I felt as though the second that the Canadiens had their first 2-on-1, actually, because they had two in a row very quickly, one after the other, and then Kotkaniemi had a chance on a turnover at the blue line. Those three situations really slowed down the Jets, you know, probably 12 minutes into the period, something like that. So, and after that, they tried to regain the momentum that they had built earlier on in the period. And even after Connie Hellebuyck had been called back to the bench, I didn't find that they were as dangerous as they had been earlier on in the period. But I'm going to ask you this, because when you look at all that it took the Canadiens to win against the Toronto Maple Leafs, the backs against the wall, et cetera, and just the way that those two teams are built, the Leafs and the Jets, do you feel as though the Jets end up being an opponent that's even better suited for the Canadiens than the Leafs were?
I think playing the Leafs prepared the Canadiens to play the Jets.
Yeah.
I think that's, I don't know if they're better suited for the Canadiens, but I think the Canadiens are better now. Like, the Canadiens are a better team having played the Maple Leafs and having had three straight games where they had no room for error and really digging into their system and really believing in it and really trusting that their teammates are going to play it. You know, when, you know, Phil Danault said, you know, when their backs were against the wall, we all looked in the mirror and said, we all have to step up our game. But I think what happened was, more than stepping up their game, they started playing as a team. They started playing together. And that was Ben Chiarot's first answer to why they're playing well, is that they're playing together.
Yeah.
All the things that they've mentioned, you know, all through the season as not being there are there. Defensemen get the puck back, they have options. There are forwards there that are there for outlets. They're where they're supposed to be. Everyone comes out of that as being where they're supposed to be, and a trust develops between teammates that I don't have to worry about what the other guy's doing. I just have to worry about what I'm going to do. I know the other guy's going to be where he needs to be. So there's no need to cheat. There's no need to cover for people. But, like, you know, just to go back to your point on the chances that the Canadiens created in the third, the 2-on-1s in particular were the result of something the Jets were trying to do to create offense. It was a result of a defenseman standing up in the neutral zone and trying to maintain offensive zone pressure, or trying to at least, you know, kill a play in the neutral zone so they can go back on offense. And both Paul Byron and Nick Suzuki managed to get it past the defenseman, creating a 2-on-1 break. Which both were very well defended, and Hellebuyck made good saves on both of them. But still, those were plays that that was an adjustment the Jets clearly made. But, okay, we need to get a goal. We're gonna get our defensemen to step up in the neutral zone. Hopefully we'll have forwards coming back. In both of those cases, they didn't. So, you know, that's the benefit of playing a patient game, is you can wait for those mistakes and get those chances. I mean, listen, Eric Staal had two breakaways in this game. Kotkaniemi had two or three really good chances. Cole Caulfield had a bunch of looks. I mean, it's not like the Canadiens didn't create any offense, but they did it within the framework of how they're trying to play. They didn't leave their overall philosophy behind in order to create offense. They were able to do it within the flow of their own game, which only increases that confidence we were talking about. You know, it's just guys believing in the way they play. And so it's interesting to me, at least, that would come out of a desperate situation, you know, and that it's really been from that point on that they've been playing that way.
It's fascinating. I mean, to have a team that's finally connected, it seems it was the buzzword among coaches this year, playing connected, to be able to finally be connected at this late in the season at such a crunch time, when this is what they've been looking for, you know, not only since Dominique Ducharme took the helm, but it's probably the lack of connectivity that explains to a certain extent why Claude Julien was let go, because things were not working out. But it amazes me that it happens in the crux, you know, in a key moment. And from this point on, you know, all that's been said prior to the season, when you looked at that team saying, well, the balanced attack, the depth that they've got, et cetera, you got guys, you got a, you know, top four defensemen that come playoff time could step up. Who knows if Carey Price is able to be Carey Price, et cetera. All those things are connecting right now. And that makes them so much better, because all of a sudden, all the evaluation you might have made of the Canadians from prior, you know, from at any point in the season, pick a date, March 1st or whatever, or April 1st. Well, you can throw that out the window, because that's not who the Canadians are anymore. They're finally who they wanted to be.
Yeah, I think I think Ducharme made a really good point after the game. You know, these aren't guys who have played together for 5 or 7 years. They're a lot of guys, even the young guys. I mean, it's, you know, the only guys who've really played together for any extended period of time are Dano and Gallagher, basically. I mean, it's you think of every other line and every other D pairing, they're all relatively new. I mean, Sherratt's been here for 2 seasons now, so that's, you know, that's him and Weber have some history together, but it's, you know, there's a lot of new elements. All the guys, you know, Stahl came in at the deadline, quarantine, crazy schedule. Like, it's just all the mitigating factors that went into how the Canadians finished the season now look like real factors, and they're really becoming a team now.
Yeah.
And so it's sometimes, you know, and when you think about it, what are they? 56 plus 9, they're 65 games into their season. So we're right around the trade deadline normally in a normal season, right? Like now. So it just, you know, I think the compressed schedule and everything about this season just made it so that it was just harder for this team to become a team. And now that's how they're playing. They're playing as a team.
That's interesting.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Listen, we are... we're going to do the switch, exactly. Yeah, so let's do our switch to French. Et je voulais te lancer, tu as mentionné Ben Sherratt. Je ne sais pas si c'est le fait de jouer contre les Jets de Winnipeg, mais my God, écoute, ben, il a été quand même de mieux en mieux. Il a été bon dans la série contre les Leafs au niveau... Jouer du hockey shutdown, il a été efficace, mais là, j'ai l'impression que les deux matchs qu'on vient de voir contre les Jets, défensivement, il est dominant. Puis c'est encore là, je reviens au point que je faisais tout à l'heure, la différence entre la saison régulière et les séries éliminatoires. Ben Sherratt, il y a eu bien des moments durant la saison où est-ce que tu te dis, voyons, le défenseur qu'on avait en mémoire de la bulle, mais même de la saison régulière passée, il est où? On le cherchait, puis il y avait de la misère. Puis là, on arrive en série, puis les choses vont de mieux en mieux. Puis c'est pas un gars qui a l'air affecté démesurément par les minutes d'utilisation. Il y a des gars qui jouent beaucoup, puis à un moment donné, tu sens une baisse de régime. Puis lui, tu sens qu'il y a un côté, c'est un cheval. Là. Il est capable d'en prendre des minutes, puis ça le dérange pas. T'sais. C'est une clé pour le Canadien.
Ben oui, mais c'est encore une fois, ça revient au principe que Marc Bergevin voulait bâtir cette équipe-là pour les séries. On voit à quel point Eric Saul, il a joué tout un match ce soir avec Corey Perry et Yoel Armia, créé beaucoup de ces présences-là en zone offensive auxquelles je faisais référence tantôt. Mais ce soir, c'est quand même pas ridicule le nombre de minutes qu'ils ont joué. Il n'y avait personne au-dessus de 25 minutes ce soir pour le Canadien. Il y avait Weber et Sherratt étaient à 24-50 et 24-43. Petrie à 24-26 et Edmonton à 23-36. C'est beaucoup, mais c'est pas ce qu'on voyait dans le bulle l'année passée. T'sais, c'est quand même...
Non. Mais ça, c'est, de... c'est l'effet Edmondson, parce que là, t'as pas
ouais,
un duo plus un gars, t'as clairement deux duos. Là.
Puis ils sont quand même capables de faire jouer Kulak un peu en troisième période, encore une fois que Gustafsson n'a pas touché à la glace en troisième ou à peu près. Il a joué, je pense, une présence
au début. Ouais.
Une présence. Alors, tu sais, mais l'autre point que je veux faire là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que, ben, c'est combien de temps que tu peux continuer à faire ça? C'est ridicule, tu peux pas faire ça. Tu peux pas continuer en série en faisant ça. Puis je faisais le point avec toi, je me rappelle pas quand, là, mais tu sais, j'ai couvert les séries en 2015 entre les Blackhawks et les Lightning. Les Blackhawks ont fait ça jusqu'à la Coupe Stanley. Là. Ils ont remporté la Coupe Stanley en jouant Duncan Keith, Brent Seabrook et Nicholas Chalmerson à outrance. Ouais. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes. 27, 28, même 30 minutes par match. Duncan Keith jouait à chaque deux présences pendant chaque match, peu importe le nombre de prolongations, quoi que ce soit, c'était chaque deuxième présence qu'il jouait. Puis ils ont été capables. Puis tu pourrais dire, ah, ben ça, c'est Duncan Keith et Brent Seabrook dans leur prime, puis Nick Chalmerson aussi dans son prime. Mais je pense que au moins Sherrod et Petrie, Edmondson, peut-être Weber, il va commencer à peut-être avoir un peu de misère éventuellement, mais ces trois gars-là, je vois pas pourquoi ils pourraient pas continuer à leur donner les minutes qu'ils les donnent,
ouais.
qui sont pas vraiment trop exagérés et continuer à être efficaces. Je pense que c'est possible. Il faut faire des ajustements, particulièrement pour Petrie, il faut qu'il s'ajuste un peu et choisir ses moments où supporter l'attaque et utiliser de l'énergie en offensive, ce qui va peut-être nuire à l'offensive du Canadien, mais étant donné les options qu'ils ont, étant donné le fait que ça n'a pas l'air que Romanov jouerait un match dans les séries, en tout cas, sauf c'est sans blessure, ils n'ont pas vraiment le choix de jouer ces quatre gars-là. Puis honnêtement, ces quatre gars-là ne leur donnent pas raison de changer ce qu'ils font. Il n'y a aucune raison de changer la façon qu'ils gèrent ça, là.
Non, effectivement. Parce que même si Dominique Ducharme s'était montré ouvert à l'idée que c'est pas parce qu'on a gagné un match qu'on ne ferait pas de changement, reste qu'il y a, il y a quand même le gros bon sens qui prévaut de dire là, ce qu'on fait en ce moment, puis notre structure, elle fonctionne, fait qu'on ne touchera pas à ça. T'sais. Parce que c'est pas juste de regarder la marque finale, mais il faut que tu regardes aussi la qualité de l'exécution, le flow dans le match qui fait que tout le monde semble à l'aise dans les. La quantité dans le type de responsabilité qui leur est donné. Fait que, ben non, effectivement, puis tu mentionnes Gustafsson. Il n'a pas joué en troisième période, mais il a quand même joué mieux. Ouais, c'est
qu'il a bien joué.
Ben, écoute, moi, il y a un moment en particulier où il a fait un bon jeu à la ligne bleue défensive qui a provoqué une relance qu'il a lui-même orchestrée, puis ça s'est transformé en 3 contre 2. Une passe à Perry dans l'enclave qui a donné une bonne chance de marquer. Tu sais, ça, je pense que ça a été sa meilleure séquence parce que c'est parti d'une action défensive qui était réussie, qui a traduit ça en attaque, puis c'est lui qui l'a opéré. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que s'il s'en tient à ça puis qu'il collabore en avantage numérique, ça va être correct. Tu sais. Mais non, effectivement, pour l'instant... Je pense que je vais arrêter de retenir mon souffle par rapport à Romanov. Peut-être que jusqu'à un certain point, c'est inutile, mais c'est juste qu'on l'écrivait dans notre calepin hier que ce serait simplement le fun que lui, il ait la même chance de se faire valoir que les jeunes en attaque ont eu, de dire ben, on tire la bride un peu plus serrée au départ, mais vous allez voir, vous allez avoir votre occasion. Mm-hmm. Puis tu regardes un gars comme Caulfield, de match en match, son impact, tu sens qu'il augmente. T'sais, on mentionnait l'autre soir qu'il avait probablement joué sa meilleure partie à 5 contre 5, probablement non seulement des séries, mais peut-être depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Mais ce soir, il s'était mis dans l'idée qu'il allait en tirer des rondelles.
Ouais, c'est ça. Quelqu'un a dit quelque chose. Là. Ouais,
oui,
quelqu'un a glissé un petit mot à Cole Caulfield et dit t'étais pas ici pour faire des beaux jeux ou pour passer la rondelle. C'est bien correct que tu veux passer la rondelle, puis on sait que tu es capable de le faire. Puis honnêtement, c'est une partie qui est comme un peu moins appréciée de son jeu, le fait qu'il soit capable de fabriquer des jeux pour ses coéquipiers.
Ouais.
Mais c'est surtout un tireur, là, puis il faut qu'il tire. C'est comme... Alors, il y avait 3 matchs de suite avec un tir au but. Ce soir, il y en avait 5 après 2 périodes. Il n'y a pas beaucoup joué en troisième, évidemment, à cause de la nature de la game, là, mais encore une fois, oui, c'est, je suis convaincu que ce gars-là, il va faire la différence dans une game à un moment donné. Là. Je suis certain. C'est comme, puis il y a la mentalité, le stage n'est pas trop gros pour ce gars-là. Là. Il n'a pas l'air d'être inconfortable dans aucun des matchs qu'il joue. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il a la tête dans la game, il prend des bonnes décisions, il est aux beaux endroits sur la glace, même quand il n'y a pas la rondelle. Je le regarde, j'essaie vraiment de le regarder en zone défensive pour voir s'il a juste l'air mêlé, puis il ne l'est jamais. Il est au bon endroit, puis c'est pas nécessairement donné pour un recrue, pour n'importe quel jeune joueur. Je me rappelle quand il a essayé de mettre Ryan Poehling à l'aile, dans la Ligue nationale, et tu le regardais, puis il était tout le temps en train de... Tu te voyais penser sur la glace. Tu voyais à quel point il fallait qu'il pense à où est-ce que je suis supposé être, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mes options. C'était visible. Là. C'était comme s'il y avait une bulle de pensée au-dessus de ta tête. Là.
T'en as une bande dessinée.
C'est ça, mais tandis qu'avec Caulfield, on ne voit pas ça. Là. C'est vraiment smooth et naturel pour lui de jouer dans la Ligue nationale.
C'est très tentant, Arpin, de penser que le Canadien va gagner cette série-là et que ça sera même pas si difficile. Je pense que les...
Oh, je ne ferais pas ça, là.
Non, je sais, mais je te dis, c'est tentant de le faire parce que c'est deux matchs à Winnipeg que le Canadien a gagné. Ils sont privés d'un défenseur de premier duo de leur côté. Ils sont privés de leur premier centre pour encore trois autres matchs. Je pense qu'on a vu assez de hockey, toi et moi, pour savoir que c'est toujours mieux d'être prudent avant de se lancer dans ces affirmations-là. Mais je pense que quand Dominique Duchamp parle souvent de contrôler ses émotions, là, ça va être. Là, c'est un autre type d'émotion qui va rentrer. C'est de dire un instant, oh, justement, on a pris les devants 2-0 dans cette série-là. Ça va bien, nos affaires, ça va bien. C'est pas. Faudrait pas empiéter puis voir trop loin en avant, justement. De toujours rester dans le moment puis de dire, bien, on est. On va strictement s'appliquer sur le troisième match à Montréal, puis on verra ce qui arrivera.
Ben, c'est pour ça qu'on va revenir à le grand thème de ces séries-là, l'expérience du Canadien. Eric Staal, sa première série éliminatoire. Le Canadien arrive à Raleigh, il remporte les deux matchs. Le Caroline arrive à Montréal, 0-2, il remporte les deux matchs, il remporte la série. Il remporte la Coupe Stanley. Alors, il y a un exemple dans le vestiaire du Canadien de quelqu'un qui a vécu ce que les Jets sont en train de vivre en ce moment. Et je suis certain qu'il va faire rappeler à ses coéquipiers que ça arrive. Et nous sommes dans une bonne position, mais ça arrive. Alors, méfiez-vous. C'est comme, je suis sûr que ces conversations-là vont avoir lieu à un moment donné et le Canadien doit être au courant parce que dans le fond, ils sont rendus dans une position où ils ont vraiment juste besoin de remporter le prochain match pour que ça se rende 3-0. Puis à ce moment-là, ça va être évidemment extrêmement difficile pour les Jets de revenir. Là, puis t'es vraiment confortable. Mais le match 3, si les Jets l'emportent, c'est une série. Là. Alors,
Assurément.
Il se joue dans le troisième match. Alors, il faut qu'il approche ce match-là avec ce thinking-là, en pensant que c'est un match 7, en pensant qu'il faut gagner à tout coup. Tu ne veux pas donner du vie aux Jets. Et je pense que avoir des gars comme Staal et Perry, des gars qui ont perdu en série, tu sais, des gars qui. C'est bien beau parler des gars qui ont remporté la Coupe Stanley, mais c'est bon aussi d'avoir des gars qui ont non seulement remporté la Coupe Stanley, mais qui ont aussi perdu souvent pendant les séries de la Coupe Stanley et dire que ça peut se faufiler très vite. Ce ne serait pas difficile que ça prend juste un match pour que les Jets reviennent dans les séries, puis dans la série, puis il ne faut pas donner cette opportunité-là. Alors, je suis convaincu que le Canadien va arriver au troisième match avec le mindset qui dit qu'il faut vraiment qu'il ne donne pas d'espoir à leurs adversaires.
Et c'est quoi? C'est tout à fait pertinent que tu parles d'Eric Staal puis du parcours en 2006 parce que c'est lui qui avait marqué le but. C'est lui qui avait marqué le but en prolongation contre Cristobal Huet, tu sais.
Et, ouais, c'est ça.
Et puis c'est ce qui avait redonné vie aux Hurricanes de la Caroline. C'est le soir finalement où Cam Ward était entré en action. Et puis, ben justement, donc l'histoire, la suite de l'histoire, évidemment, on la connaît pour les Hurricanes. On la connaît aussi pour Saku Koivu qui avait été blessé à l'œil à ce moment-là. Mais ouais. C'est ça, ça part avec un but de Staal. Fait que tu as tout à fait raison de dire qu'il est très, très bien placé pour relever les pièges dans lesquels le Canadien pourrait tomber. Alors, on va l'éviter, nous autres aussi. Mais c'est le fun quand même de penser que justement, il y a c'est du hockey en juin, c'est du hockey devant des spectateurs. Je pense que c'est une belle ride que le Canadien vit en ce moment. Fait que ça, on va le prendre pendant que ça passe parce qu'honnêtement, il n'y a pas si longtemps, on pensait pas que ça allait arriver.
Ouais. Ouais, ça c'est. Mais honnêtement, il y a une opportunité pour le Canadien qu'on ne voyait pas, mais que je pense que il faut le dire. Là, que je pense que Marc Bergevin le voyait. L'été passé, il voyait cette opportunité-là, puis c'est en train de se concrétiser. Ça doit être très valorisant pour lui de voir les joueurs qu'il a amenés à avoir autant d'impact qu'ils le font. Même un gars comme Josh Anderson qui n'a pas beaucoup d'impact en ce moment, je trouve que son jeu est un peu plus effacé. En ce moment, on ne le voit pas autant. Il n'est pas aussi physique, il n'est pas aussi présent en échec avant. Il n'a pas beaucoup d'opportunités de marquer, sauf que son trio avec Kotkaniemi et Byron, c'est un bon trio.
Oui.
Ça fait le travail. Et ça rentre dans l'équipe. Tout le monde joue leur rôle. Et je pense que Josh Anderson lui-même probablement comprend que je n'ai pas besoin d'être quelqu'un qui est constamment à chaque présence en train de frapper tout ce qui bouge. Je peux rester un peu plus patient, je peux attendre mes opportunités. Tant que l'équipe gagne, ça va. Alors, c'est comme... Alors, je dirais que Marc Bergevin avait prévu ça. Puis on a tous douté à certains moments pendant la saison, mais je me rappelle, au début du camp d'entraînement, je croyais vraiment que cette équipe-là était effectivement bâtie pour les séries. Marc Bergevin le croyait aussi.
Ouais.
Et on est en train de voir.
Absolument.
Bon. Lui, ben...
Ouais, voilà, alors sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes
Marc,
paroles,
je dirais jamais que je dis, Marc, je sais que tu écoutes l'émission, là. Je dirais jamais que je dis rien de bon sur toi, là. C'est comme honnêtement, mais il écoute tous nos épisodes, là. Il est vraiment un grand fan du sport athlétique, Marc Bergevin. Alors, C'est pas vrai. Non,
c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
Honnêtement, il y a d'autres choses à faire. Bon, puis moi aussi, il faut que j'aille écrire. Fait que, écoute, merci Arpin. Merci à tout le monde d'avoir synthétisé le sport athlétique dans les deux langues. Et puis, on va revenir dimanche soir, dis-je, après le troisième match de la série. Et puis, d'ici là, passez un beau week-end. Tout le monde, profitez du beau temps dehors. Bye-bye.